Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Un aveu d'échec pour le chef du gouvernement libanais et une démission au goût amer pour Emmanuel Macron. Hier, à Beyrouth, le président du Conseil, Mustapha Adib, a reconnu être incapable de former un gouvernement. Il s'est donc retiré de ses fonctions, mais les partis politiques libanais s'étaient engagés devant le président français mi-septembre à en trouver un de gouvernement. Le président français va donc tenir une conférence de presse depuis l'Élysée ce soir sur la situation à Beyrouth, un exercice rare au cours duquel il pourrait revenir sur les raisons de l'impasse. La correspondance à Beyrouth de Laure Stéphan.
Tout en se rejetant mutuellement la responsabilité de l'impasse politique, de nombreux leaders libanais se sont retrouvés hier sur un terrain d'entente, louer l'initiative française, professer leur attachement à l'intervention de Paris et affirmer souhaiter son maintien. Une quasi-unanimité qui est la même professée en matière d'attachement aux réformes sans qu'aucune ne se concrétise. L'impasse politique s'est incarnée avec la récusation de Mustapha Adib, l'homme sur qui un accord de dernière minute avait été trouvé pour le nommer comme Premier ministre peu avant la seconde visite d'Emmanuel Macron au Liban le 1er septembre. Des Libanais appellent à ce que Paris mette en place des sanctions contre la classe politique locale. D'autres, au contraire, accusent la France d'ingérence, mais l'inquiétude domine. L'abandon de Mustapha Adib marque l'aggravation de la crise politique dans un pays en proie à une dégringolade économique et dans un climat anxiogène avec la multiplication d'incidents sécuritaires. La communauté internationale a prévenu, il n'y aura aucune aide sans réforme. Les propos d'Emmanuel Macron ce soir seront scrutés par les camps politiques adverses, à savoir celui du Hezbollah et celui de ses rivaux. Mais pour de nombreux observateurs, aucun apaisement au Liban ne sera possible sans un desserrement de l'épreuve de force entre Washington et Téhéran. Le Liban est redevenu au centre des bras de fer régionaux et internationaux et certains prédisent que le blocage durera au moins jusqu'aux élections américaines capables d'influer sur la donne régionale.
À Beyrouth, Laure Stéphan. Aux États-Unis, la Cour suprême s'enfonce un peu plus dans le conservatisme. Hier soir, sans surprise, Donald Trump y a nommé la juge Amy Coney Barrett. La décision doit encore être avalisée par le Sénat. Joe Biden a demandé aux parlementaires de barrer la route à cette figure de la droite religieuse américaine. Mais comme le Sénat est à majorité républicaine, Amy Coney Barrett devrait siéger à la Cour suprême avant le scrutin présidentiel du 3 novembre. En France, plus de 14 000 nouvelles contaminations de Covid ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Alors dans ce contexte, comment va-t-on passer les fêtes de fin d'année? Pour éviter que cette période ne soit un accélérateur formidable de propagation du virus, deux prix Nobel d'économie, Esther Duflo et ABI Itbarenergy, plaident pour le journal Le Monde pour un reconfinement préventif. Les explications d'Esther Duflo.
Ce qu'on propose, c'est de prendre de l'avance et de dire confinons avant Noël, pendant 3 semaines, ce qui est suffisant pour les gens qui sont malades de se guérir. Organisons une grande campagne de tests massive pour que tous ceux qui peuvent, tous ceux qui ont le moindre doute puissent se faire tester avant de rentrer dans leur famille, ce qui permettra aux gens de se retrouver en famille à Noël dans une situation sereine et sans accélération de la transmission aux générations les plus âgées pendant les fêtes de fin d'année. Une fête comme celle de Noël, qui est une fête en hiver, en décembre, où toutes les fenêtres sont fermées et où on va typiquement voir ses parents et ses grands-parents, ce serait l'occasion d'une catastrophe épidémique si on ne prend pas de l'avance dessus.
Esther Duflo avec Lionel Thompson. Pas d'allégeance à Daesh ou Al-Qaïda, mais un manifeste pour expliquer son geste. Le message est enregistré en ourdou, sa langue natale. L'information est donnée dans le JDD ce matin. Le principal suspect dans l'attaque rue Nicolas Appert à Paris revendique avoir bel et bien visé Charlie Hebdo. Le jeune homme a expliqué aux enquêteurs qu'il voulait venger le prophète. Il affirme ne pas avoir supporté les nouvelles publications des caricatures de Mahomet début septembre par le journal satirique. Rassemblement hier à Paris, des Outre-mer, les manifestants ont répondu à l'appel du CREFOM, c'est le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, pour, disent-ils, briser le silence. Sarah Ders, ils réclamaient plus de visibilité et d'égalité de traitement.
Plus aucune inégalité, plus de discrimination et surtout plus de considération. Des ultramarins sont venus crier leur colère, comme Mike qui s'inquiète pour les générations futures.
Cette communauté des Outre-mer, donc dans cette République française, elle est de plus en plus inexistante. Par exemple, là, nous sommes en pleine période de Covid. On parle beaucoup d'Aix, de Marseille, mais on sait que en Guadeloupe notamment, c'est la catastrophe. Le chlordécone, ce poison qui a été dilapidé donc sur ces terres pendant des années alors que c'est un produit qui a été interdit mondialement. Aujourd'hui, il n'y a pas de réparation et je suis conscient que que c'est un phénomène qui est grave parce que ça va toucher des générations et des générations.
Ce pesticide ultra toxique a été utilisé pendant près de 20 ans dans les bananeraies de Guadeloupe et Martinique. Il a contaminé les sols, les rivières, le bétail jusqu'à la population elle-même, provoquant des malformations, des cancers dont souffre un membre de la famille d'Ismaël Morgan, jeune étudiant de 19 ans.
Le chlordécone, il a pollué nos territoires depuis les années 70. Les responsables ne sont pas traînés en justice, donc je trouve qu'il y a une certaine injustice et une certaine complaisance de l'État français.
La fermeture de Françoise a été pour eux le coup de grâce. Yvette regrette tout de même le manque de mobilisation des Français d'outre-mer.
J'aurais voulu que tout le monde vienne, voilà, que nous soyons très nombreux, que les gens sachent que nous existons.
Ce qu'ils veulent concrètement, c'est que l'État réduise les inégalités entre les départements d'outre-mer et la métropole, accentuées par la crise sanitaire.
Sarah Ders, la météo, de la pluie ce matin de la Dordogne aux Hauts-de-France et de la Mayenne à l'Alsace. Ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures de 6 à 11 ce matin sur la moitié nord et de 1 à 14 sur la moitié sud.